La Faculté des Arts et des Sciences de l'Université de Montréal présente le cours « L'histoire des formes du roman québécois » FRA 2641L, donné par M. Guy Laflèche du département d'études françaises.
Alors que la dernière émission était consacrée à Maria Chapdelaine, un récit pour enfants ou adolescents, cette dixième émission sera consacrée à la description d'un homme et son péché, un récit simpliste, comme on le verra, mais cette fois à ne pas mettre entre les mains des enfants.
Entendez-vous dans la plaine ce bruit venant jusqu'à nous? On dirait un bruit de chaîne se traînant sur les cailloux. C'est le grand Lustucru qui passe. Il repasse et s'en ira. Portant dans sa besace tous les petits gars qui ne dorment pas. Long, long, là, long, long, là.
On a vu la dernière fois, à partir du tableau 9, que Maria Chapdelaine pouvait s'analyser en 12 séquences qui s'organisent à partir des 12 mois de l'année, ou, de façon plus générale, à partir des saisons qui déterminent les états de la terre, le travail des paysans et, en conséquence, la vie de la famille Chapdelaine et l'histoire d'amour de Maria. On a dit alors que cette organisation ou cette structuration était très simple, mais qu'elle était également indéterminée au sens où elle était universellement valable. Mais en tout cas, on trouvait là une organisation de la substance narrative. Dans le cas d'un homme et son péché, cette organisation n'existe pas. On peut dire qu'on est en face d'une structure narrative ouverte, ou ce qui revient au même, qu'on ne trouve dans ce roman aucune organisation de cette substance narrative. Voyez le tableau 10 de votre cahier qui constitue une simple description de la structure narrative du roman. Vous voyez que cette structure s'analyse en trois séquences temporelles de 3, 5 et encore 5 chapitres. On définit la séquence temporelle comme une durée supposée continue qui ne comprend pas d'ellipses importantes, disons de plus d'une journée, tandis qu'au contraire, les ellipses narratives, qu'on a définies dans le tableau 3 de votre cahier, marquent la fin d'une séquence. Par exemple, le chapitre 1er se situe le samedi matin 17 juillet 1890. Le chapitre 2 continue le récit de l'avant-midi, tandis que le chapitre 3 se situe à la suite, soit au début de l'après-midi. Bon, on voit donc que tout cela, toute cette séquence, raconte le début de la journée où Séraphin engueule sa femme Donalda parce qu'elle frotte le plancher avec un chapeau de paille au lieu d'utiliser le bon vieux pesant, jusqu'au moment où Séraphin Poudrier prête 100$ à Jean-Baptiste Lemont avec qui il revient du village. Au contraire, entre les chapitres 3 et 4, on trouve une ellipse narrative de plus de 24 heures, de 3 mois exactement, puisque c'est le 16 novembre suivant que Donalda tombe malade. Alors les chapitres 4 à 8 vont former la deuxième séquence qui va raconter la maladie, l'agonie, la mort, la veillée au corps et l'enterrement de Donalda. Enfin, la troisième et dernière séquence qui groupe les chapitres 9 à 13 raconte la nuit et la journée de la mort de Séraphin. Vous venez sûrement de remarquer que le premier chapitre de cette dernière séquence, le chapitre 9, comme le début du chapitre suivant, ne respecte pas tout à fait la description que j'ai donnée tout à l'heure de la séquence, puisque ces pages décrivent, disons, la nouvelle situation de Séraphin Poudrier. Alors cette situation depuis la mort de Donalda, avec tout l'argent qu'il continue de faire au cours de l'hiver, l'investissement qu'il retire atteint des fausses mines de Perdichot, comme de l'argent qu'il retire également de la fabrique et qu'il accumule dans sa maison. En réalité, il ne s'agit pas là d'une exception, mais au contraire d'une particularité de la structure narrative de ce roman. Si vous relisez le premier chapitre, soit le début de la première séquence, vous verrez qu'il s'ouvre également sur une assez longue description, celle de la vie conjugale et en particulier de la vie sexuelle de l'avare et de son épouse. De la même manière, les cinq premières pages du chapitre 4, soit le début de la deuxième séquence, constituent une description du temps et du lieu de l'histoire et se terminent par un parallèle entre les portraits de Séraphin et d'Alexis. Bref, vous voyez que ce tableau 10, s'il est exact dans son ensemble, constitue une abstraction de la structure narrative réelle du roman. En fait, chacune des trois séquences, d'abord, s'ouvre sur un tableau ou une description de la situation. Cette situation est évidemment racontée à l'imparfait, ce qu'on appelle l'imparfait d'habitude. Relisez la première phrase du roman. « Tous les samedis, vers 10 heures du matin, la femme à Séraphin Poudrier lavait le plancher de la cuisine dans le bas-côté. » Vous voyez que c'est le récit itératif. Puis intervient un événement narratif particulier, raconté cette fois au passé simple. Ce sera, dans le cas de la première séquence, la phrase suivante, « Un samedi de juillet, Donalda se mit à laver le plancher de la cuisine. » Alors vous savez que c'est avec un chapeau de paille au lieu d'un bouchon de pesant. Et c'est à partir de ce premier événement qui fait office de démarreur que va s'articuler le déroulement des événements narratifs de chacune des séquences. Vous voyez donc qu'un homme et son péché est constitué de trois structures événementielles qui sont chaque fois intégrées ou incluses dans une situation d'où elle se détache et qu'elle illustre chaque fois. Par exemple, la première structure actentielle peut se résumer par les trois événements suivants. Premièrement, Séraphin querelle Donalda parce qu'elle frotte le plancher de la cuisine avec un chapeau de paille. Deuxièmement, Séraphin dîne en ville et laisse Donalda l'attendre pour rien. Troisièmement, Séraphin prête 100$ à Jean-Baptiste Lemont avec usure. Alors on voit que ces trois événements, d'abord, ne sont pas liés entre eux par un lien de cause à effet, mais par leur succession chronologique. On voit ensuite que ces événements sont absolument arbitraires. Ils constituent ce qu'on a appelé un événement qualificatif ou attributif, c'est-à-dire qu'ils servent à décrire d'abord l'avarice et la puissance de l'avare, et ensuite son manque d'amour et sa rudesse pour Donalda. Bref, ils constituent non pas tout à fait une histoire, ni au sens courant, ni au sens où on l'a défini, mais une description ou un portrait de Séraphin Poudrier. On y reviendra au début de la prochaine émission. Et ce qui est particulier à ce roman, c'est que ce portrait est explicite. Il s'agit de ce qu'on a nommé tout à l'heure la situation qui ouvre chacune des trois séquences. On peut encore dire qu'il y a une histoire qui nous est racontée dans ce roman, mais elle ne s'organise pas sous la forme d'un déroulement d'événements, mais au contraire sous la forme d'opposition d'événements, comme l'illustre la figure 15 de votre cahier, qui montre que le roman s'analyse comme un processus de détérioration. C'est la faute ou le mal fait par Séraphin, les séquences 1 et 2 du roman, suivi d'un processus d'amélioration. C'est la punition ou le mal fait à Séraphin, la séquence 3 du roman, où vous savez que Séraphin est bien puni puisqu'il est brûlé en voulant sauver son argent. De la même manière, la structure actentielle du roman est extrêmement simple, comme le montre la figure 14, puisqu'elle ne comprend qu'un héros, Séraphin, en quête de l'or. Et tous les personnages du roman sont tantôt des adjuvants, tantôt des opposants, selon qu'ils l'aident ou lui nuisent dans cette quête. Et si vous essayez maintenant de décrire les attributs des personnages du roman, vous verrez qu'ils obéissent à la même simplicité. Donalda est belle, jeune, travaillante, religieuse, exploitée et martyrisée par son mari, et Bertine est une réplique de Donalda. Alexis est le double inversé de Séraphin, père de 8 enfants, travaillant, généreux et bon vivant, tandis que Séraphin est le paysan travailleur, le riche, craint et respecté, mais surtout l'avare hypocrite, dur et méchant. Il s'agit, vous le voyez, d'un portrait charge. C'est l'infâme canaille,
tandis que tous les autres sont de pauvres malheureux. Et si vous croyez que j'ironise ou que je parodie, vous vous trompez, puisque on le lit explicitement à la page 27 du roman. Je cite, « L'usurier faisait signer à de pauvres malheureux les pires engagements qu'ait jamais imaginé la plus infâme canaille. » Fin de la citation. Si je reprends tout cela, je pense que je peux décrire l'histoire racontée dans Un homme et son péché en disant qu'il s'agit du portrait extrêmement simple et même simpliste d'un méchant avare qui exploite de pauvres gens comme Jean-Baptiste Lemont, qui est responsable de la mort de sa pauvre femme et qui meurt un jour brûlé dans sa maison en voulant sauver son or. Et alors, c'est tant pis pour lui, il l'a bien mérité.
Entendez-vous dans la plaine ce bruit venant jusqu'à nous? On dirait un bruit de chaîne se traînant sur les cailloux. C'est le grand Lustucru qui passe. Il repasse et s'en ira. Portant dans sa besace tous les petits gars qui ne dorment pas. Long, long, là, long, long, là.
Le récit qui porte cette histoire, lui, n'est pas si simple. Il est au contraire extrêmement complexe, mais tout aussi simpliste. L'histoire est d'abord présentée comme une histoire naturaliste et son symbolisme est tout à fait explicite. Par exemple, on nous dit trois fois au début du roman, c'est aux pages 11, 15 et 18, que les planchers sont jaunes comme de l'or, et à la page 138, que les poignées du cercueil de Donalda brillent comme de l'argent. Est-ce que vous pouvez imaginer un symbole plus explicite de l'avarice de Séraphin? Et relisez dans cette optique la description de la maison que vous trouverez dans les premières pages du roman. Vous y trouverez une foule de comparaisons du type « l'encre encore figée » comme si elle n'eût point voulu servir au contrat malhonnête. C'est à la page 23. Ou encore une relative du genre de celle-ci que vous trouverez à la page 38, « la plume grinçante qui avait fait crever tant de familles ». Vous voyez qu'on peut difficilement être plus explicite. Et ce symbolisme explicite est au service d'un naturalisme aussi voyant et explicite. Soit la situation temporelle très précise de l'histoire, telle qu'elle figure dans le tableau 10, ou encore à la page 18 du roman, lorsqu'on nous dit que c'est à 11h05 exactement, je cite, que Donalda se mit à préparer le dîner. Il en est encore de même pour la localisation de l'histoire dans le comté de Terrebonne, près de Sainte-Agathe, et les très nombreuses précisions d'argent, aussi bien dans les tractations de l'avare que dans le calcul de sa richesse, qui s'élève à 4 757 $ en espèces exactement au moment de l'incendie. On peut dire que si l'histoire de Maria Chapdelaine était indéterminée, celle de Séraphin Poudrier est surdéterminée. Mais cette surdétermination est absurde dans la mesure où elle n'a pas d'autre fonction que de nous persuader que l'histoire que nous lisons est naturaliste. Et comme les naturalistes racontent toujours des histoires sombres, pensez aux romans de Zola, eh bien le narrateur d'Un homme et son péché noircit à souhait l'univers romanesque. C'est le naturalisme proprement dit, les traits sordides insérés de place en place dans le roman, comme par exemple à la page 21, où des milliers de mouches grasses et collantes bourdonnent dans la cuisine, comme à la page 126 encore, les crachats teintés de sang, couleur de sucre d'orge, épais et visqueux de Donalda. C'est à la page 80, pardon. Ce qu'on lit à la page 126, c'est la description de l'odeur de son cadavre. Mais vous lirez aussi, un peu plus loin dans le roman, la description de la soupe de Séraphin Poudrier, alors je vous la lis. « Et il plongea un bol dans le chaudron. Il en sortit un breuvage blanchâtre où flottaient des filaments bruns et des cartilages entrelacés comme des poignées de verre. » Fin de la citation, qui vous aura fait comprendre, j'espère, qu'il s'agit d'une histoire naturaliste, c'est-à-dire sale et sordide.
Entendez-vous dans la plaine ce bruit venant jusqu'à nous? On dirait un bruit de chaîne se traînant sur les cailloux. C'est le grand Ustucru qui passe. Il repasse et s'en ira. Portant dans sa besace tous les petits gars qui ne dorment pas. Long, long, là, long, long.
Mais le narrateur d'Un homme et son péché n'est pas seulement le narrateur naturaliste d'une histoire naturaliste. C'est encore le narrateur d'une histoire osée, disons d'une histoire cochonne. Vous vous souvenez que le roman s'ouvre sur une description des appétits sexuels de Séraphin pour Donalda. Et vous remarquerez que la sexualité est partout et toujours explicite dans ce roman et qu'elle est toujours présentée du point de vue ou par rapport à Séraphin Poudrier. Soit, comme je le disais tout à l'heure, son désir pour la jeune Donalda avant de l'épouser. Sa vie, ou plutôt son absence de vie sexuelle telle que vous la lisez au début du roman. Ses désirs impurs, comme dit le narrateur, pour Bertine, la fille d'Alexis qui vient s'occuper de la maison durant la maladie de Donalda. Et vous remarquerez que la cause de son prêt à Jean-Baptiste Lemont est encore d'ordre sexuel. Lemont a besoin de 100 $ pour sauver son honneur après avoir violé la jeune Célina Labranche qui se trouve enceinte. Et enfin, les extraits 2 et 3 de votre cahier ne sont que deux des très nombreux exemples de la comparaison de l'or et de la maîtresse, de l'avarice et de la luxure. Bref, vous voyez que la sexualité est partout mise en évidence et très nettement dénotée dans ce roman de l'avarice. Alors, si n'importe quel roman peut être étudié du point de vue de la psychocritique, cette mise en évidence de la sexualité, qui par ailleurs n'est pas du tout le sujet du roman, la présente en même temps comme refoulée ou sublimée par l'avarice. Ce refoulement ou cette sublimation, donc, appelle évidemment une étude psychanalytique du personnage et même du cas Séraphin. On y a mis beaucoup de temps, mais on ne s'est pas privé de le faire. C'est d'abord Sœur Sainte-Marie Éleuthère, dans son livre sur la mère dans le roman canadien-français, qui a proposé la première analyse du cas, en décrivant le besoin maladif de Séraphin pour l'argent comme une régression à un stade infantile du développement de sa personnalité. Gérard Bessette, dans une littérature en ébullition, reprend l'analyse de Sœur Sainte-Marie Éleuthère dans une étude très serrée du roman. Il montre que Séraphin a le comportement sexuel d'un adolescent et débouche sur ce qu'il appelle son complexe laitier. Bref, il montre que Séraphin est avare parce qu'il a peur de sa sexualité. Enfin, Claude-Marie Gagnon, dans un bref article que vous trouverez dans le numéro 2 de Voix et images du pays, paru en décembre 1975, reprend l'analyse de Gérard Bessette, sans rien lui ajouter d'essentiel, il me semble, pour en revenir à la thèse de Sainte-Marie Eleuther, car pour elle, le comportement de Séraphin Poudrier s'explique par une fixation à un stade prégénital, soit le stade oral. Quoi qu'il en soit, c'est l'excellente analyse de Gérard Bessette qui m'intéressera ici, parce qu'elle met en évidence un trait essentiel du narrateur d'Un homme et son péché, son incompréhension absolue de l'histoire qu'il raconte ou de l'avare dont il nous fait le portrait. Écoutons d'abord la description que le narrateur nous fait de la vie sexuelle de Séraphin et Donalda Poudrier. C'est l'extrait 3 de votre cahier.
Il connut Donalda, enfant. Il la convoitait depuis le jour où il l'avait rencontrée dans un champ de fraises. Elle s'était assise près de lui et il avait été frappé par la blancheur de ses bras et par la fermeté de sa poitrine, si opulente pour son âge. Il l'aimait. Il se laissa d'abord entraîner par le fleuve de l'impureté dont il ne chercha jamais à découvrir la source. Puis, peu à peu, il se fit à l'idée qu'elle pourrait devenir sa femme. Quand la petite eut 20 ans, il l'épousa. Il en avait 40. Les troubles de la chair qu'il combattait depuis tant d'années l'envahissaient maintenant ainsi qu'une crue prodigieuse de limon. Mais Séraphin ne se laissa point attendrir comme un fol, ni par le cœur, ni par les sens. Il se rendit compte avec une précision d'usurier que s'il se laissait aller à la passion de la chair, la petite Donalda la Loge finirait par lui coûter les yeux de la tête et lui mangerait jusqu'à la dernière terre du rang. Il lutta tant et si bien, de nuit et de jour, qu'il fit de sa femme moins qu'une servante, pas autre chose qu'une bête de somme. Cette paysanne, fraîche comme un pommier en fleurs, prédestinée aux adorables enlacements, assaillie des désirs que l'invincible atavisme faisait croître autour d'elle comme en un printemps sans fin, ne connut jamais les joies de la charnalité. Elle passa, sans transition, du soir des noces à la vie amère, cassante et matérielle du ménage, sans avoir même éprouvé la sensation d'un baiser lent et profond. Une fois, une seule fois, Séraphin la posséda brutalement, mais refusa net de lui faire un fils qu'elle désirait avec tant d'amour de par l'hérédité la plus lointaine. « Je n'aime pas les enfants », avait-il dit, avant de s'endormir. Dans une autre circonstance, il s'était livré. « Tu sais, ma fille, que des enfants, ça finit par coûter cher. »
Voilà. Si vous avez pu comprendre quelque chose à ce texte, c'est que vous avez une très grande perspicacité, très plus grande en effet que celle du narrateur et même que celle des analystes qui se sont penchés sur lui. Que veut dire le narrateur lorsqu'il affirme que Séraphin se laisse d'abord entraîner par le fleuve de l'impureté, puis se fait à l'idée qu'elle pourrait devenir sa femme? Malgré l'analyse de Gérard Bessette, qui, il me semble, n'est pas tout à fait correct au point de vue syntaxique ici, je n'en vois pour ma part aucune explication. Ensuite, le narrateur nous dit qu'une fois, une seule fois, Séraphin posséda brutalement Donalda, mais refusait net de lui faire un fils. Les analystes expliquent cette phrase en disant que Séraphin s'est adonné, mais c'est la seule explication logique, à cette pratique tout à fait barbare qu'on appelle le coït interrompu. Mais alors, s'il connaît cette pratique anticonceptionnelle, comment peut-il refuser de faire l'amour avec Donalda sous prétexte qu'il ne veut pas d'enfant? Il n'y a, il me semble, qu'une seule réponse à ces questions. Le narrateur ne comprend absolument rien au comportement sexuel de son personnage. La perversion sexuelle de Séraphin Poudrier est évidente. Il n'a aucune activité sexuelle conjugale et les extraits 1 et 2 de votre cahier, qui ne sont encore une fois que deux exemples, montrent que sa sexualité est refoulée, déplacée et sublimée dans son avarice puisqu'il caresse son argent comme on caresse une maîtresse.
Thank you. Entendez-vous dans la plaine ce bruit venant jusqu'à nous? On dirait un bruit de chaîne se traînant sur les cailloux. C'est le grand Lustucru qui passe. Il repasse et s'en ira. Emportant dans sa besace tous les petits gars qui ne dorment pas.
Mais le point important, c'est d'abord que le narrateur pose ce comportement anormal bien en évidence. Il veut manifestement faire un récit naturaliste et osé de son histoire. Mais comme il ne comprend manifestement rien à cette histoire ou au comportement de son personnage, il ne réussit qu'à produire un récit simpliste. Et c'est en même temps un récit moralisateur, puisque le méchant pervers, on l'a vu, est bel et bien puni.
Le cours « L'histoire des formes du roman québécois » a été donné par M. Guy Laflèche. Narration Guy Côté. Prise de son, Claude Garraud. Mise en onde, Thérèse Toin. Mmh.